21 février 1984, cours de métaphysique sur la personne, Rimon.
Nous allons continuer ces quelques remarques sur la manière dont Max Scheler conçoit la personne. Nous voyons que c'est complexe, ce n'est pas facile, comme du reste toute la pensée philologique, elle n'est jamais très facile à bien résumer, pratiquement on ne peut pas la résumer puisqu'elle est descriptive. Quand il s'agit d'une pensée qui analyse et qui saisit les principes, on peut préciser par les principes. Tandis que quand il s'agit d'une démarche essentiellement descriptive, c'est extrêmement complexe. Vous voyez la complexité de la personne humaine, hein, sous ses différents aspects. Alors, c'est évidemment pas très commode. Alors, nous allons terminer ces quelques remarques que nous avons. La place de la conscience. Je crois que c'est ça qui est important. Et de dépasser l'aspect psychologique. Comment on ne reste pas au niveau psychologique? On essaie d'atteindre quelque chose qui est au-delà, qui pourtant demeure dans l'intentionnalité. Et qui est un au-delà de l'intentionnalité, conscience psychologique. Nous avons conscience psychologique du vécu immédiat, et il y a quelque chose de plus profond qui est cette intention, cette orientation vers. Alors, ce n'est pas dit explicitement du point de vue de la finalité. Je crois qu'on peut dire que c'est comme une redécouverte d'une finalité, mais qui n'est pas faite pleinement. On est en intentionnalité de découvrir la finalité. Vous voyez ? Donc on est vers cette découverte de la finalité. La finalité ayant été brisée, il y a dans le phénomène même, déjà chez Husserl, mais alors chez Max Scheler beaucoup plus, puisque Max Scheler n'a pas la même rigueur de méthode phénoménologique que Husserl. Il est plus proche, si vous voulez, d'une expérience humaine constante. C'est pour ça qu'on peut plus facilement l'intégrer dans une philosophie réaliste. Ça a été le souci du Saint-Père. Max Scheler a marqué très fort la pensée du Saint-Père, peut-être plus que Husserl. C'est Max Scheler qui fait mieux comprendre comment le Saint-Père veut, dans son livre, nous verrons au terme, Personne et acte, comment il veut fonder la personne dans un point de vue ontologique. C'est possible avec Max Scheler. Beaucoup plus difficile avec Husserl. Alors, si c'est par une perception affective, je continue par 726 dans l'étude de l'être et de la recherche d'une philosophie première, donc au terme de cette recherche, si c'est par une perception affective que nous avons accès au monde des valeurs, c'est dans l'amour que la personne se révèle à nous. Et dans l'amour que la personne accomplit son essence axiologique individuelle. L'axiologie, c'est la philosophie des valeurs, hein, n'oubliez jamais ça, qui est son salut personnel. Donc vous voyez bien, c'est bien par là qu'on peut dire qu'il y a comme une espèce de recherche de la finalité. Si c'est par une perception affective que nous avons accès au monde des valeurs, pas découvrir la valeur sans le point de vue affectif, sans le point de vue de l'estimation qui est impliquée dedans. Alors il y a le point de vue affectif et le point de vue de l'estimation. C'est dans l'amour que la personne se révèle à nous et dans l'amour que la personne accomplit son essence axiologique individuelle, qui est son salut personnel. Le plus haut amour de soi et donc l'acte, vous voyez l'acte dont parle le Saint-Père, le plus haut amour de soi est donc l'acte par lequel la personne atteint à la pleine compréhension de soi-même. Personne et acte. C'est le présent chez Max Scheler. Hein. Donc ce n'est pas du tout l'acte tel qu'Aristote en parle, hein, faisons attention. Ce n'est pas du tout la métaphysique de l'acte. C'est l'acte tel qu'il est montré ici, le plus haut amour. Et je crois que cette phrase est importante pour bien saisir justement ce que ça représente. Le plus haut amour de soi est donc l'acte par lequel la personne atteint à la pleine compréhension de soi-même et par là à l'intuition et à la perception affective de son salut. Vous voyez la difficulté, parce que c'est amour de soi. Alors qu'est-ce que ça représente, l'amour de soi? Ce n'est pas l'amour d'un bien transcendant. C'est l'amour de soi. Mais cependant, cet amour de soi est l'acte par lequel la personne atteint à la pleine compréhension de soi-même et par là à l'intuition et à la perception affective de son salut. Mais toute personne est responsable de la valeur morale des autres. Alors, vous voyez là, responsabilité à l'égard des autres. Donc, amour d'amitié qui intervient. Et l'amour vraiment moral, le seul amour moral, et l'amour de la personne à personne. Quand nous essayons de reprendre toute la philosophie éthique par le point de vue de l'amour d'amitié, vous voyez la proximité qu'il y a avec la pensée de Max Scheler. C'est pas voulu, hein, mais c'est de fait ce que nous retrouvons. C'est intéressant de voir ça, parce que c'est toujours le pont qui, entre les deux. Mais toute personne est responsable de la valeur morale des autres, et l'amour vraiment moral, nous dirions, nous, l'amour spirituel. Nous dirions l'amour personnel. L'amour vraiment personnel, vraiment moral, le seul amour moral est l'amour de personne à personne. L'amour d'amitié. Oui. Donc, quand on parle uniquement de l'amour de soi, est impliqué l'amour de l'autre. Et c'est ça la très grosse difficulté. Tout un petit congrès à Fribourg, si vous voulez, qui était sur l'amour de soi et l'amour de l'autre, dans la perspective de Husserl, et on sait combien ça a pataugé dans tous les sens, hein, parce que l'amour de soi, l'amour des autres, de l'autre, quand il s'agit de la philologie, c'est pas commode du tout. Mais c'est intéressant à voir, vous voyez. Je vous ai déjà dit plus d'une fois, hein, qu'au fond, il y a deux philosophies. La philosophie de l'autre et la philosophie du même. Ceci depuis Platon. La philosophie du même. Je crois que c'est la philosophie platonicienne, néoplatonicienne et la phénoménologie. La philosophie de l'autre, c'est la philosophie de l'expérience externe. Expérience interne, expérience externe. Si le point de départ de la philosophie, c'est l'expérience externe, vous êtes tout de suite en face de l'autre. L'autre, c'est ce qui transcende. Le même, il est immanent. C'est celui qui est immanent. Vous êtes immanent à vous-même, hein, j'espère. C'est, vous êtes normalement immanent. C'est la philosophie du même. On redécouvre le même à l'intérieur même, cette réflexion sur soi-même. Donc c'est l'expérience interne. C'est pour, toujours pour montrer que, de fait, on retrouve tout le temps les mêmes aspects. Si vous commencez votre philosophie par l'expérience externe, vous découvrez l'autre en premier lieu. Si vous découvrez au contraire la philosophie, si vous regardez au contraire l'expérience interne en premier lieu, toute la perspective du néoplatonisme, toute la perspective de la phénoménologie, c'est le vécu interne qui est premier. Alors vous commencez par l'expérience interne. Quelle est l'expérience interne qui me permet d'être le plus proche de l'autre? C'est l'amour. Ah, vous voyez comment l'amour de soi, c'est le même. Dans l'immanence affective, il y a un amour de soi. Le vieil Aristote disait déjà que tout amour à l'égard d'un autre implique un amour à l'égard de soi. Il le dit ça. On ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas. On sait très bien. Et dès qu'on n'a pas un amour de soi normal, dès qu'il y a un espèce d'aspect maladif qui fait qu'on ne s'aime pas, on a beaucoup de peine d'aimer les autres. Ça, on comprend. Alors, on comprend comment l'amour de soi, fondement, dans la perspective d'Aristote, fondement de tout amour à l'égard de l'autre. On retrouve ici cet amour de soi qui nous permet d'être l'amour à l'égard de l'autre. À l'égard de l'autre en tant qu'une personne. Vous voyez, c'est bien ce que j'essayais de vous exprimer tout à l'heure, c'est qu'il y a dans cette perspective une recherche de retrouver la finalité. Pour nous, l'amour de l'autre, c'est-à-dire l'amour de l'ami, c'est mon bien. Et mon bien transcende. Ici, on essaie par l'immanence de retrouver la transcendance. Puisque par l'amour de soi, on va essayer de retrouver l'amour de l'autre. Et c'est très vrai que lorsqu'il s'agit d'une philosophie qui commence par le point de vue du même, c'est vraiment l'amour de soi qui me met le plus proche de l'autre. Mais vous voyez, si je vais jusqu'au bout, je dirais que ça reste au niveau du fondement. L'amour de soi n'est pas l'amour de l'autre. Je t'aime beaucoup parce que je m'aime beaucoup. Quand vous dites ça à quelqu'un, hein, c'est très flatteur. Il a très bien compris. Je t'aime énormément parce que je m'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que c'est? C'est l'amour du bois, le petit lapin qu'on a avalé. Je t'aime beaucoup parce que tu es le plus intime de moi. C'est en fait très intéressant parce qu'on sent très bien qu'il y a un désir de trouver l'autre. Mais étant donné le point de départ sur l'expérience interne du vécu, la chose la plus profonde, c'est de retrouver par l'amour de soi l'amour de l'autre. On ne le redécouvre pas pleinement. Je ne peux pas découvrir l'autre si je le mesure à partir de mon amour. L'amour de soi est nécessaire comme fondement, mais ce n'est pas ce qui spécifie l'amour de l'autre. Qu'est-ce qui spécifie l'amour de l'autre? C'est l'ami. C'est mon bien. Ce n'est pas l'amour que j'ai pour moi qui spécifie l'amour de l'autre. Vous voyez? C'est au fond ça la difficulté. Il faut bien le voir. Je crois que c'est important. Il faut être lucide. C'est très beau de voir cet effort. Quand on est enfermé dans un idéalisme, quand on est enfermé dans une philosophie du même, comme c'est difficile de sortir. Et la seule porte d'issue, c'est l'amour. Et la seule porte d'issue, c'est l'amour de soi. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Parce que c'est émouvant. Évidemment, c'est pas philosophique d'être émouvant, mais c'est émouvant. C'est quand même très émouvant de voir ça. C'est très émouvant de voir qu'on fait cet effort pour redécouvrir l'autre. Et comme c'est difficile. Mais je reprends, parce que ça nous intéresse pour nous, voyez, quand j'essaie au point de vue éthique de commencer de reprendre à partir de Nietzsche tout le point de vue de l'éthique par le point de vue de l'amour d'amitié. Vous voyez qu'il y a un point commun. C'est ça qui est intéressant toujours. Il faut voir la diversité, mais il faut aussi saisir les points communs. Parce que quand on saisit un point commun entre une philosophie comme celle de Max Scheler et une philosophie réaliste, c'est très intéressant de voir ce point commun. Il le montre ici. Pour lui, la morale, c'est la responsabilité, c'est très juste. Et cette responsabilité, elle se découvre dans l'amour d'une personne à l'égard d'une autre personne. Et c'est vrai. Je ne suis responsable au sens fort que d'une personne, de moi-même et de l'autre. Moi, je dirais de l'autre et de moi-même. Je ne suis responsable que ça. Je ne suis pas responsable de mon stylo. Je ne suis pas responsable au sens strict d'un outil. Responsable moralement. Je suis responsable de l'outil parce que cet outil m'a été confié par une personne à qui cet outil appartient. Là, j'en suis responsable. Oui. Et j'irai plus loin en disant que je suis responsable parce que mon devoir est de faire ceci, alors je suis responsable de cet instrument. Mais la responsabilité au sens fort, est toujours au niveau moral d'une personne à l'égard d'une autre personne. C'est là où la responsabilité prend toute sa force. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui me semble très intéressant comme contact. Mais toute personne est responsable de la valeur morale des autres, et l'amour vraiment moral, le seul amour moral, est l'amour de personne à personne, amour qui vise à la plus haute valeur de la personne d'autrui. Alors vous comprenez ce que c'est que la valeur, hein ? Vous allez commencer à découvrir ce que c'est que la valeur. Non. Amour qui vise à la plus haute valeur de la personne d'autrui. En définitive, cet amour d'autrui, ainsi que l'amour de soi, se fonde dans l'amour de la personne des personnes. Le moment initial de l'émotion amoureuse est un amour, est une personne ontologiquement réelle, la personne de Dieu. Alors ça, c'est capital. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour saisir comment cette pensée demeure dans ce que nous appelons l'ontologie. Comment, en définitive, l'amour de soi et l'amour de l'autre vont-ils se rejoindre? C'est la personne de Dieu. Je ne peux pas rejoindre autrement. Vous voyez ce que dit Descartes? On le retrouve ici. Comment puis-je prouver qu'à partir de l'idée, je rejoins le réel? Il faut remonter jusqu'à Dieu, la vérité. Dieu est gardien, garant de la vérité de ma connaissance sensible. Je dirais, Dieu est garant de l'objectivité de mon amour pour les autres. C'est très vrai dans l'ordre surnaturel. C'est moins vrai dans l'ordre philosophique. Le télescopage du point de vue surnaturel et du point de vue proprement philosophique. Je ne peux pas dire au point de vue philosophique que Dieu est le garant, que c'est la personne de Dieu qui est garant de ce passage de l'amour de soi à l'amour de l'autre. Parce que Dieu serait immanent à tout amour. Saint Jean dit bien, tout amour vient de Dieu, oui, il faut le comprendre. Mais c'est très intéressant, vous voyez, c'est très intéressant parce que vous retrouvez du côté affectif ce que Descartes disait du côté intellectuel. Et vous retrouvez l'ontologisme. L'ontologisme, vous savez bien ce que c'est qu'ontologisme, n'est-ce pas ? La pensée ontologique, c'est une pensée dans l'immanence qui fait que je ne peux connaître l'homme que dans la lumière de Dieu. Or, ici, comprenez bien, cet amour de soi qui rejoint l'amour de l'autre, c'est le salut de la personne. Donc, c'est là où je touche un sommet. Donc, je touche l'acte. L'acte de la personne, c'est cet amour de soi qui rejoint l'amour de l'autre. Or, cet amour de soi qui rejoint l'amour de l'autre ne peut se comprendre que par la personne de Dieu. Donc, je peux dire que l'homme, dans sa personne, ne peut se comprendre que relativement à Dieu. Et je crois que c'est le point névralgique. Il faut y réfléchir, parce que ça me semble très, très important. C'est très important de bien saisir ça. C'est beau, hein, c'est très beau. Ça, l'inconvénient, c'est que c'est pas vrai. Mais c'est très beau, je trouve ça très, très beau. Comme, c'est plein d'émotions, du reste, il le dit. Le moment initial de l'émotion amoureuse est une personne ontologiquement réelle, la personne de Dieu, le moment initial de l'émotion amoureuse. C'est très vrai, le moment initial de l'émotion amoureuse. C'est une personne ontologiquement réelle, la personne de Dieu. Nous avons vu que l'essence axiologique de la personne était individuelle. Donc, il faut bien saisir ça. Cela ne veut pas dire que l'essence elle-même soit individuelle. Lorsque Scheller parle d'essence, il s'agit d'une essentialité d'ordre intuitif. C'est là où on commence à bien comprendre. Ça, je crois que nous pouvons le saisir. Et au fond, c'est l'essentiel de sa perception de la personne. La personne humaine ne peut se comprendre que dans la mesure où je suis dans cette perspective affective de la valeur, toute valeur implique un aspect affectif. Or, la valeur n'est parfaitement elle-même que dans l'amour de soi. Cet amour de soi n'est parfaitement lui-même que quand je rejoins l'autre, et je ne peux rejoindre l'autre que grâce à la personne que je suis. Vous avez donc le triangle. Hein. Ça, je crois qu'on peut saisir ça. Et on voit bien comment on reste dans l'immanence et comment cette immanence essaie de saisir la transcendance. Hein. Bon. Maintenant, regardons autre chose, le point de vue ontologique. Le fondement ontologique, parce que là je suis resté dans l'intentionnalité, d'une certaine manière, mais une intentionnalité radicale, hein, pas une intentionnalité psychologique, mais une intentionnalité radicale. Donc je reste dans l'intentionnalité. On va essayer de voir le point de vue du fondement. Alors, il parle de l'essence et de l'essentialité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essentialité? Vous voyez bien ce que c'est, hein. Blancheur, hein, n'oublions jamais ça. C'est une petite clé très simple, on passe du concret à l'abstrait. Entre l'essence et l'essentialité, c'est la même chose qu'entre blanc et blancheur. Donc, n'ayez aucune expérience de l'essentialité. Essayez de comprendre la formalisation de l'essence. Hein. C'est déjà pas si mal. Hein. L'essence est déjà assez radicale et vous essayez de saisir l'essentialité. Lorsque Max Scheler parle d'essence, il s'agit d'essentialité d'ordre intuitif, qui de soi n'est ni universel ni individuel. C'est au-delà de l'universel et de l'individuel. En précisant que l'essence axiologique de la personne est individuelle, il veut dire qu'elle n'est autre que son salut personnel. La personne, dans la mesure même où elle est pure personne, est un être individuel, par conséquent unique et distinct de tout autre. De façon analogue, sa valeur est une valeur individuelle et unique. Et c'est avec la spiritualité qu'augmente l'individualisation de l'être et de la valeur. Ça, c'est très beau. N'est-ce pas ? Plutôt que l'individuation par la quantité, vous voyez comme c'est plus spirituel, hein. C'est beaucoup plus spirituel, je suis un être beaucoup plus individualisé, c'est grâce à ça, c'est avec la spiritualité qu'augmente l'individualisation de l'être et de la valeur. Mais pour Scheler, le principe de l'individualité ne s'applique pas seulement à la personne singulière, il s'applique aussi bien à la personne commune. Par exemple, le peuple grec ou la communauté chrétienne qui a son propre salut personnel. Alors, personne et communauté, ça ne fait plus qu'un. Vous voyez, pour la vie commune, hein, c'est merveilleux comme mélange des deux et que les deux se tiennent. Pour Max Scheler, en effet, à chaque personne finie appartiennent à la fois une personnalité singulière et une personne commune, qui entretiennent des relations mutuelles, mais dont l'idée de l'une ne constitue pas le fondement requis pour former l'idée de l'autre. La personne commune n'est pas un rassemblement de personnes singulières, en ce sens qu'elle n'existerait qu'à la suite d'un tel rassemblement. Elle est une réalité vécue, non une construction. Il n'y a aucune subordination de principe entre personne singulière et personne commune. Mais un rapport de subordination éthique commun des deux sortes de personnes à l'idée d'une personne infinie, chez qui disparaît cette distinction entre personne singulière et personne commune, qui appartient par nécessité d'essence à toutes les personnes finies. Et toujours le point de vue de la personne divine, la personne infinie. Vous voyez, chose très curieuse. En Dieu, Dieu est au-delà de l'universel et du singulier. C'est évident, c'est propre de Dieu. Dieu est au-delà du point de vue universel et singulier. Dieu n'est pas un singulier. Non. Alors, par le fait même que la présence de Dieu est présente dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, on pourra dire que la personne est au-delà de l'individu et du singulier, de l'universel du singulier. que de fait cette personne, dans son individualisation, elle est liée à la personne commune. Elle ne fait plus qu'un avec la personne commune. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence de l'infini. Je crois que c'est exactement la même chose. Hein. C'est la même perspective comme conséquence. Hein. Il n'y a aucune subordination de principe entre personne singulière et personne commune, mais un rapport de subordination éthique commun des deux sortes de personnes à l'idée d'une personne infinie, l'idée d'une personne infinie, chez qui disparaît cette distinction entre personne singulière et personne commune, qui appartient par nécessité d'essence à toutes les personnes infinies. Pour toutes les personnes finies, il y a cette distinction. Mais la personne n'est personne que dans la mesure où elle est unie à la personne de Dieu. Or, dans la personne de Dieu, elle est infinie. Donc, il y a quelque chose d'infini dans toute personne. Et cet infini, c'est justement ce qu'il y a de propre à la personne. Et cet infini le met au-delà de cette distinction. La conception schellérienne de la personne est complexe. Ce qui est net, cependant, c'est le rejet de la personne considérée comme chose. Comme substance, je résume, non ? Comme substance, un sujet possédant des pouvoirs. La personne est l'unité immédiatement co-vécue du vivre par expérience vécue. Elle est l'unité d'existence concrète. Elle est elle-même essentielle. Hein, essentielle dans le sens, justement, différence entre essentiel et essentiel. Hein. Donc c'est le vécu au sens très très fort. Si l'être de la personne fonde tous les actes essentiellement divers, cet être n'est pas un point de départ vide, c'est un être concret ramenant à l'état d'essentialité concrète les actes. La personne est présente à l'accomplissement de ses actes, elle est présente dans le vivre, par expérience vécue. C'est pourquoi, si le mot personne, à la différence du je, est un terme absolu, ce qui se suffit à soi-même, il ne peut cependant se séparer de ses actes. Là, vous commencez à comprendre le titre du livre du Saint-Père. Je crois que ça, c'est très significatif. Personne et acte. L'essence de la personne, et de n'exister et de ne vivre qu'en effectuant des actes de visée intentionnelle. L'intentionnalité étant au-delà du point de vue psychologique, hein, c'est-à-dire d'ouverture. La personne implique ce dépassement, autrement dit. La personne implique ce dépassement parce que la personne limitée doit rejoindre la personne infinie. Et on est une personne que dans la mesure où on rejoint cette personne infinie. Dans la mesure où l'amour de soi rejoint l'amour de l'autre, il y a la personne divine qui est présente. La personne se définit encore comme conscience concrète de, conscience de soi, de sa valeur propre, à condition de préciser que ce concept ne s'applique qu'à partir d'un certain niveau de développement et d'une certaine domination par laquelle on est le maître de son propre corps. En ce sens, on comprend comment la personne est condition de toute moralité. Bon et mauvais sont des valeurs de la personne, et la personne elle-même est la valeur des valeurs. Ce que nous avions dit. C'est dans l'amour que la personne se révèle à nous et accomplit son salut. Et cet amour se fonde dans l'amour de la personne des personnes, c'est-à-dire Dieu. La personne est un être individuel, et sa valeur est individuelle, mais elle est de façon également primitive, membre d'une personne commune. C'est complexe, hein ? Pas si facile que ça de saisir ce que c'est que la personne dans la perspective de Marc Scheller. Je crois qu'il y a quelque chose qui semble assez net, et c'est ce que je souligne là. D'abord, la mise entre parenthèses du mot substance, du mot
substance pris comme sujet, nous disons pas ça. Donc la substance scolastique, la scolastique décadente. On voit toujours la substance comme le sujet. C'est très intéressant de voir ça, parce que là, il y a quelque chose de juste, la réaction. Si la substance, c'est le sujet, la personne n'est pas le sujet. Et on comprend très bien pourquoi. Parce que la personne, c'est justement le centre de la responsabilité. Alors, le sujet serait neutre. Alors, il n'y a aucune neutralité dans la personne. C'est impossible. Elle est toujours engagée, si vous voulez. Et c'est ce qu'il exprime quand il dit le point de vue de la personne est là. Donc, suppression de cela. Et essayer de retrouver le noyau fondamental de la personne. Ce noyau fondamental de la personne, on va essayer de découvrir progressivement par la conscience de. Alors, on remplace substance par conscience de. Et nous avons vu conscience de, c'est au-delà du point de vue psychologique. C'est donc l'intentionnalité dans ce cas-là plus fort. La méta-intentionnalité, si vous voulez. L'intentionnalité fondamentale. Or, l'intentionnalité n'est parfaite que du côté affectif, donc l'amour de soi, lié à l'amour de l'autre et lié à la personne. Moi, je crois que c'est cet effort de retrouver dans la personne quelque chose d'infini. C'est pour ça qu'il dit que la personne est un absolu, mais la personne n'est pas le je. Le je est c'est au niveau psychologique. Je parle. Ça, c'est au niveau psychologique. La personne est beaucoup plus profonde que ce point de vue psychologique parce qu'elle est le noyau de tous mes actes. Elle est le noyau de toutes les ramifications qui peuvent exister. Et en définitive, elle rejoint la personne divine. Mais au-delà du point de vue psychologique, hein, ce n'est pas le point de vue psychologique, il ne dit jamais qu'on a l'expérience de Dieu, mais il montre que la personne touche la personne divine. Alors il faudrait maintenant, on va passer rapidement, la personne et la vie. Alors, ce serait la perspective de Whitehead et de Bergson qui serait intéressante à regarder ici. Je vais passer tout de suite à l'aspect qui me semble plus intéressant pour nous, le point de vue de la personne et de la valeur. Un peu, ce sera un peu la dernière chose que nous préciserons avant de regarder le point de vue de Maritain. Intéressant de regarder quand même le point de vue maritain. La personne et la valeur, page 735. Donc, on a déjà relevé chez Max Scheler, ainsi que chez Nicolas Hartmann, une considération axiologique de la personne. Pour Lavelle, la personne se définit comme l'esprit qui met la valeur en œuvre. Vous voyez, c'est essayer de saisir ce point de vue de la personne et de la valeur. Toute la philosophie contemporaine, vous le savez bien, est très orientée vers le point de vue de la valeur. C'est très difficile de saisir exactement ce que c'est que la valeur. C'est pas commode du tout. Je crois que la question de la valeur, encore une fois, du moins, c'est manière de le regarder, c'est un essai de redécouvrir la finalité dans une perspective idéaliste. Alors, c'est lié à un aspect de causalité exemplaire. Je crois toute valeur est liée à la causalité exemplaire. La causalité exemplaire, vous le savez, dans la perspective d'une philosophie réaliste, est très lié à la cause finale. Mais ce n'est pas la cause finale. Et dans le langage courant, et même dans le langage dit spirituel, regardez Saint Ignace quand il raconte son propre itinéraire spirituel, parce que c'est chez lui particulièrement visible. Saint Ignace, quand il raconte son ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. Et c'est lui qui le dit. Il cherche l'idéal. Il cherche un idéal. Alors, il regarde tous les saints, et les saints représentent un idéal. L'idéal. Quelle différence est-il entre idéal et valeur? Oui, il faut s'approcher pour une certaine chose. L'idéal, on sait très bien ce que c'est la causalité exemplaire. Je me donne un idéal de vie. Se donner un idéal de vie, on sait bien ce que c'est. J'ai comme idéal de vie la vie régulière parfaite. Une bonne religieuse, vous savez bien, à un certain moment, elle fait toute sa règle. Hein, extraordinaire. Elle fait la règle parfaitement. Elle applique parfaitement la règle. Donc vous avez l'idéal. On s'est donné un idéal. Est-ce qu'elle aime ? Ah, ça c'est autre chose. Ça ne se mesure pas, mais elle fait l'idéal. Elle fait sa règle. Donc l'idéal c'est ça. On s'est donné un idéal. Est-ce que le christianisme se définit par un idéal ? Ou est-ce que le christianisme se définit par la rencontre à l'égard d'une personne ? Rencontrer le Christ, l'aimer, aimer une personne, c'est pas un idéal, c'est plus qu'un idéal, c'est aimer. Et alors, à partir de là, évidemment, causalité finale, une personne c'est un bien, et un bien spirituel. Rencontrer une personne, c'est l'aimer. La sainteté se définit-elle par un idéal ou par l'amour ? Et on touche des choses très importantes, là. C'est pour ça que c'est intéressant, ça vaut la peine d'essayer de comprendre un tout petit peu ce que c'est que la philosophie des valeurs. Lisez le Sème, hein, parce que ça c'est facile à lire pour beaucoup, et le Sème c'est la philosophie des valeurs, d'une certaine manière. Et vous essayez de trouver, alors dans le Sème, lisez Lavel, philosophie des valeurs. Alors la valeur est liée à la conscience, parce que je crois que l'idéal c'est toujours lié à la conscience. Le bien est au-delà de la conscience. L'amour est au-delà de la conscience. Alors ce qu'il faut essayer de saisir, c'est les liens entre valeur, idéal, amour. Il faut essayer de comprendre ça. L'amour est lié à la cause finale, je crois que la valeur et l'idéal sont liés à la cause exemplaire. Et c'est toute la différence qui existe entre la cause exemplaire et la cause finale. Et je crois qu'on pourrait dire dans l'histoire de la pensée qu'à partir de Don Scott, la causalité finale s'est ramenée à la cause exemplaire. C'est Don Scott qui a fait ça. Puisque Don Scott nous dit que la cause finale est métaphorique. Si la cause finale est métaphorique, vous comprenez bien, elle est donc dans ma pensée. Elle est métaphorique. Je me donne une finalité. Est-ce que vous avez le droit de dire « je me donne une finalité »? Je me donne un idéal de vie. Ah oui, tout à fait. Je me donne un idéal de vie. Est-ce que je me donne une finalité? Non. Je découvre mon bien. Mais je ne me donne pas une finalité. Se donner une finalité, c'est au fond la valeur et c'est l'idéal. C'est la cause exemplaire. Alors, c'est très très intéressant de voir ça, parce que la perte de la finalité, qui existe au point de vue théologique depuis le XIVe siècle, hein, c'est vieux ça, la perte de la finalité fait qu'on veut retrouver, il faut bien qu'on ait quelque chose. Hein. L'homme ne peut pas vivre sans finalité, c'est absolument impossible. Mais si elle est perdue, il se la donne. Alors il se la donne par le point de vue de la cause exemplaire. Il se la donne par le point de vue de l'idéal. Il se la donne par le point de vue des valeurs. Vous êtes très sensible à ça aujourd'hui. C'est très important. Oui. Alors c'est pour ça que c'est important de découvrir. On l'a déjà vu chez Max Scheler, on a déjà vu le point de vue de la valeur par le point de vue de l'amour de soi, c'est évident, et le point de vue du salut. C'est ça qui est très curieux. Vous ramenez le salut à la valeur. L'année de la rédemption, c'est l'année du salut. Donc c'est l'année de la valeur. Alors, vous voyez, ou bien est-ce que c'est l'année d'un amour qui nous unit à une personne ? C'est pas la même chose. Quelle différence y a-t-il entre la valeur et l'amour personnel ? L'unité avec la personne. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. Ça, je crois que c'est très important. Et alors, c'est là où on saisit vraiment
Mais toute la distance qui existe entre une perspective qui reste idéaliste, mais qui par l'intentionnalité veut devenir réaliste, il y a une bonne volonté merveilleuse, mais il y a un manque d'intelligence. Mais les choses parlent en nous. Il y a un manque d'intelligence. La bonne volonté merveilleuse de ceux qui cherchent la valeur et l'idéal, c'est très beau, c'est très touchant. Ça nous donne une grande émotion. Mais c'est peut-être pas ça, le point de vue réel. Le point de vue réel, c'est découvrir une personne. Et découvrir une personne dans un amour réel. Alors, c'est le Christ, c'est le prochain. Et quelquefois, la valeur peut être rivale du Christ et du prochain. Alors, on aime mieux une valeur, un idéal, que le prochain. C'est ça qui est sous-jacent. C'est ça qu'il faut essayer de saisir ici dans cette recherche que nous ferons de la personne et de la valeur.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.